La première, le monde en direct. Julie Morel et Sophie Léonard.
18h47, c'est un événement pour les amoureux de la mode.
La Fashion Week masculine a démarré hier à Paris avec un spectaculaire défilé Louis Vuitton sur la place Beaubourg auquel ont assisté de nombreuses stars. On écoute le commentaire de la journaliste mode Sophie Fontanelle. Elle commente les silhouettes dessinées par Pharrell Williams pour Vuitton.
Il arrivait, mais c'était vraiment le plus chic de tous. Et Beyoncé, elle est arrivée dans un silence complet. La femme de Pharrell Williams, la beauté. Tout le show, là, il était inspiré de du tailoring moderne indien.
Un show orchestré de main de maître et dont les images inondent les réseaux sociaux depuis hier. La stratégie de communication est puissante.
La mode, formidable miroir de nos comportements sociaux, de notre société. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle fascine notre invité. Bonsoir Didier Varvarin.
Bonsoir.
Alors on vous connaît comme chroniqueur de mode, styliste, scénographe, professeur à la Cambre. Bref, vous êtes celui qu'il nous faut ce soir pour évoquer l'évolution de la mode en 2025. La Fashion Week de Paris, Milan, ces défilés de mode, hein. On peut dire qu'en 2025, ça reste des événements incontournables.
Ah oui, plus que jamais. Et je crois que depuis la pandémie, la mode a repris vraiment sa grande part, sa grande couverture. Et les Fashion Week sont de plus en plus importantes et de plus en plus remplies de jeunes gens aussi.
Parce qu'il y en a qui ont quand même laissé tomber, non ? À New York, on a laissé tomber, par exemple, la Fashion Week.
New York n'a jamais été une Fashion Week qui a déplacé des foules. Paris reste quand même l'endroit où les gens qui veulent montrer pour la première fois leur travail le font. New York a toujours été une Fashion Week un peu commerciale pour un marché américain. C'est vrai que là, ils ont décidé d'arrêter. Et donc, ça se reconcentre encore plus sur Paris.
Quand vous dites que ça n'a jamais été aussi fort qu'après le Covid, pourquoi ? Qu'est-ce que le Covid a marqué dans la mode ?
Bah que la pandémie, en fait, ça a quand même freiné et presque mis à l'arrêt une industrie qui a pour essence de ne jamais s'arrêter et de toujours et en permanence, en fait, créer, montrer, etc.
La pandémie, montrer, surtout, c'est ça qu'on ne pouvait plus faire.
La pandémie, elle a obligé tout le monde à se réinventer, à prendre une pause. Alors, les marques ont inventé des choses, elles ont fait des vidéos, elles ont utilisé le digital et les écrans pour communiquer. Et personnellement, mais je suis pas le seul à le penser, j'aurais imaginé qu'après cette pandémie et après tout ce qu'on a vécu, elle aurait tiré des leçons, mais la mode ne tire pas souvent de leçons, elle a une mémoire très très courte. Et aujourd'hui, les défilés sont plus grandioses que jamais. Il y a presque même une décadence dans la manière dont on montre et dont on mobilise l'attention.
Décadence, vous utilisez ce mot-là. Décadence,
oui,
décalage en fait par rapport au monde d'aujourd'hui.
Oui, décalage et décadence, ils vont assez bien ensemble, mais une joyeuse décadence. Que la décadence, c'est pas non plus un mot horrible, ouais. Mais c'est-à-dire que les moyens qui sont alloués à la mode, vous avez parlé de ce défilé de Pharrell Williams aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode loue des ponts de Paris, la mode monopolise des lieux publics qui ne sont pas des petits endroits. Donc la mode aujourd'hui, elle est vraiment visible aussi très fort dans la rue.
Mm-hmm. Sur le plan artistique, si on parle de 2025 et de ce qu'on voit là dans les défilés, par exemple, mode homme en 2025, qu'est-ce qui frappe en fait ?
Ce qui m'a frappé le plus depuis la saison dernière, c'est un vrai retour à une certaine élégance. Alors dans la mode, c'est des cycles, c'est souvent tous les 10 ans. On est dans un retour vraiment au tailleur. Donc Sophie Fontanelle en parlait, le taylorisme. Donc un retour à cette élégance du costume croisé, des épaulettes, du joli col, des belles matières, des pantalons qui... Mmh. Voilà, il n'y a plus de slim, il n'y a plus de hoodies, il n'y a plus trop de oversize. Mmh. Et il y a une certaine idée d'élégance qui souvent va de pair avec une époque qui est assez morose.
Ouais. Et on a vu ça aussi d'ailleurs chez Anthony Vaccarello,
oui,
créateur belge,
oui,
qui vient de la Cambre d'ailleurs.
Exactement.
Ouais. Mais toujours des baskets, tiens, avec le tailleur.
Ben, il n'y en a pas trop là chez Anthony Vaccarello. La saison dernière, c'était des grandes cuissardes en cuir. Et alors, elle sera toujours là, la basket, dans la rue. Mais sur les podiums, il y a vraiment un retour du luxe, de l'opulence, des couleurs et des vêtements très, très, très travaillés avec des broderies, avec des ajouts, etc. Donc, une mode extrêmement chère.
Ouais. Et ce n'est pas que dans les défilés, parce que c'est vrai que ce qu'on voit là sur les défilés, j'allais dire sur des podiums, mais c'est de moins en moins souvent sur des podiums, vous l'avez dit, plutôt Place Beaubourg. C'est aussi ce qu'on verra chez Zara, pour citer une marque et le dire vulgairement. Il y a quand même un lien très fort entre
tout
ce qu'on voit
fait.
Là
c'est
et
des...
ce qu'on voit dans la fast fashion.
Oui, oui, c'est clair que c'est des prescripteurs et donc les grandes marques de fast fashion vont suivre et vont s'aligner sur la gamme de couleurs, sur les proportions et aussi sur cette idée d'élégance. Donc on verra de plus en plus de garçons très très stylés, parce que là on est dans l'homme, la femme ça fait un moment aussi qu'il y a ce retour de l'élégance.
Mais... très stylé et très sexualisé.
Et très sexualisé, oui, depuis quand même pas mal de saisons.
Didier Varvaron, il y a quand même une nouvelle génération de créateurs, hein, de directeurs artistiques et tout. Comment est-ce qu'ils font et j'imagine qu'il y a quand même une volonté de vivre avec son temps, c'est-à-dire en 2025, vous avez parlé de décadence, mais là on parle quand même d'écologie, il y a beaucoup quand même d'upcycling. Oui. Comment est-ce qu'ils font, ces jeunes créateurs, et est-ce qu'il y en a ?
Les jeunes créateurs, il y en a, et c'est très étrange aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où c'est le monopole des grands groupes, des grandes marques, comme on en a parlé tout à l'heure, mais étrangement et quand même régulièrement, il y a des nouveaux arrivés sur les calendriers de la Fashion Week, des jeunes gens qui démarrent et qui ont des démarches un peu atypiques aussi, et donc qui défendent plutôt une idée d'une mode durable, avec en utilisant des tissus upcyclés, en défilant dans des lieux plus anodins, on va dire, en faisant défiler leur communauté. Donc voilà.
Est-ce que ça fonctionne ?
Ça fonctionne parce qu'en fait les deux ont besoin, l'une et l'autre ont besoin d'exister. Et je crois qu'il y a aussi un marché, il y a aussi une clientèle en fait qui est fatigué de ces groupes de luxe, qui est fatigué de ces vêtements hors de prix aussi, qui est fatigué de ce luxe ostentatoire et qui a envie de soutenir ces jeunes créateurs. C'est une démarche qui existe et qui continue d'exister.
On peut pas parler de la mode en 2025 sans parler des réseaux sociaux, évidemment, parce que c'est, vous me le disiez en préparant cette émission, c'est un peu le règne d'Instagram aujourd'hui, la mode.
Il n'y a plus rien qui est fait si ça ne matche pas avec le format d'Instagram. Et quand je parle de format, je parle même du format de l'image. Donc aujourd'hui, les créateurs indépendants, mais les grandes maisons, en fait, construisent un peu tout leur communication autour de ce médium-là, TikTok aussi, de plus
donc
en plus.
Donc BNC qui arrive tout doucement dans ce défilé, par exemple, Louis Vuitton, c'est minuté, c'est...
Complètement, et vous savez que ça va beaucoup plus loin que ça. Les mannequins qui défilent aujourd'hui sur les défilés de mode sont des filles souvent très connues, voilà, mais dans leur contrat, elles ont besoin aussi de faire des posts Instagram, elles sont bookées si elles ont plusieurs dizaines de milliers de followers, et donc tout ça est agencé et c'est une espèce de grande recette qui fait son...
On recrute plus des modèles de la même manière en fait.
Plus du tout. En fait, aujourd'hui, on recrute des filles qui sont bankable, c'est-à-dire des filles qui ont un réseau, qui ont des followers et qui, dans leur contrat, contractuellement, vont faire une série de posts en backstage avec une célébrité pendant, après le défilé.
Ça a aussi permis de rajeunir en fait la cible du prêt-à-porter de luxe et même de la haute couture, parce que c'est vrai que le fait d'avoir sur les réseaux sociaux toutes ces prescriptions de tendance, ça veut dire qu'on voit dans la rue à Bruxelles des jeunes filles de 15-16 ans avec un sac Balenciaga ou un sac Vuitton.
Oui, exactement. Je pense que
à la mode.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelque part aussi la raison et le moyen aussi pour ces marques en fait de toucher, parce qu'en fait le problème d'une marque c'est qu'il faut renouveler constamment sa clientèle parce qu'elle vieillit autant que les marques, et que là les réseaux sociaux et tous ces phénomènes d'influenceurs et de réseaux de communautés ont démocratisé et ont popularisé des maisons qui a priori étaient quand même à l'opposé des réalités de la génération d'aujourd'hui.
Démocratiser par rapport au prix, c'est peut-être un grand mot.
Non, démocratiser dans le sens où aujourd'hui les jeunes aussi en fait s'intéressent à ça et s'inspirent de ça. Donc dans la démocratisation, je la vois plutôt comme en fait prendre part à être touché par et puis un peu consommé, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui consomment aussi ce luxe d'une autre manière, ils font des recherches, ils ont des raisons un peu parallèles.
Et c'est le marché de la seconde main qui fonctionne.
Et il y a le marché de la seconde main, exactement.
La mode, finalement, c'est de l'art ou du business ?
C'est les deux. Ça a toujours été les deux, et je pense que ça restera toujours les deux, mais c'est avant tout du business, et puis c'est avant tout aussi le reflet de notre époque. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas business ? Enfin, le business est dans tous les aspects de notre vie et de notre notre consommation.
Et ça reste aussi passionnant pour vous ? Il nous reste peu de temps.
Moi, ça reste toujours aussi passionnant et je trouve que la nouvelle génération, là, je regardais ce qui s'est passé aujourd'hui après le défilé Vuitton. Il y a Jeanne Friot qui a fait défiler toute sa communauté transsexuelle avec sa collection qui, elle, est totalement upcyclée. Il reste des choses qui vont arriver et se populariser demain.
Il n'y a pas que le mainstream.
Bien sûr que non.
Qui inonde nos réseaux sociaux.
On en parlerait des heures, hein, de la mode, Julie. Merci beaucoup, avec Didier Verbarun. Merci, Julie. On se retrouve demain pour Le Monde en direct. La suite, ce sont les 5 heures. La première.